préparation à la prédication, nous aurons ce matin trois lectures. La première dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 25, les versets 14 à 35. Nous sommes donc dans un contexte où David avait demandé de l'aide à un monsieur qui s'appelle Nabal. Ce monsieur pour lequel David avait fait preuve de beaucoup de gentillesse et d'égard a refusé d'accorder l'aide à David. Et nous sommes à ce moment-là au verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint faire un rapport à Abigaïl, femme de Nabal. « Voici que David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces hommes ont été très bons pour nous. Nous n'avons subi aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons fait route avec eux lorsque nous étions dans la campagne. Ils nous ont, nuit et jour, servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître le petit bétail. » Maintenant, tâche de reconnaître et de voir ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et lui, c'est un vaurien, impossible de lui parler. Abigaïl prit vite 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons apprêtés, 5 mesures de grains rôtis, 100 paquets de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et dit à ses jeunes gens, « Passez devant moi, je vous suis. » Et elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendait par un versant de la montagne, et voici que David et ses hommes descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « Oh, c'est bien à tort que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu fasse ceci aux ennemis de David, et qu'il ajoute encore cela. » Si je laisse subsister jusqu'au matin même le moindre de tous ceux qui appartiennent à Nabal. » Lorsqu'Abigaïl aperçut David, elle descendit vite de l'âne, tomba et se prosterna en présence de David, la face contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce vaurien de Nabal, car il est comme son nom. » Il s'appelle Nabal, et il y a chez lui de l'insanité. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es vivant, c'est l'Éternel qui t'a empêché d'en arriver au crime et d'assurer toi-même ton propre salut. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Maintenant, que le cadeau que ta servante apporte à mon Seigneur soit distribué aux jeunes gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera certainement à mon Seigneur une maison stable, puisque mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, qu'on ne trouve donc jamais le mal en toi. Si un homme se dresse, te poursuit, et en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera gardée à l'abri parmi les vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Mais l'âme de tes ennemis, il la lancera au loin comme avec une fronde. L'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a promis et qu'il t'aura établi, conducteur d'Israël. Mon Seigneur n'aura ni remords, ni mauvaise conscience d'avoir répandu le sang inutilement et d'avoir voulu assurer lui-même son salut. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, tu te souviendras de ta servante. » David dit à Abigaïl, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. « Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour d'en arriver au crime et d'assurer moi-même mon propre salut. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant. C'est lui qui m'a empêché de te faire du mal. Si tu n'étais vite venu au-devant de moi, d'ici à la lumière du matin, il ne serait pas resté le moindre de ceux de Nabal. » David prit des mains d'Abigaël ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Jusque-là, cette lecture dans l'Ancien Testament. Une deuxième lecture maintenant, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, nous lirons les versets 14 à 21. « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai », dit le Seigneur. Mais aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Et enfin, une dernière lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, nous lirons les versets 27 à 36. Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
Bonjour à chacun, c'est pour moi une joie et un privilège d'être parmi vous pour vous parler de l'Évangile et de ses conséquences dans nos vies de tous les jours. Et c'est en comptant sur l'œuvre du Saint-Esprit que je vous parle ce matin, afin qu'il dirige autant ma bouche que nos cœurs, que nous puissions recevoir ce qu'il veut nous dire dans sa parole. Nous en sommes entièrement, totalement et consciemment dépendants. Nous arrivons aujourd'hui à la dernière prédication de cette série sur l'artisan de paix, qui nous aura fait cheminer en fait dans une manière biblique de gérer les relations, et particulièrement dans les petits ou même les grands conflits. En lisant votre Bible, en écoutant les prédications dans les semaines, dans les mois qui viennent, comme vous l'avez fait dans le passé, vous vous rendez bien compte qu'il y a bien plus encore à apprendre dans ce rôle d'artisan de paix que ce que nous avons vu dans ces quelques prédications. C'est un cheminement, en fait, de vie face à la parole de Dieu, guidé dans ses liens les uns avec les autres. Mais comme les prédications se suivent, mais pas très proches, un petit rappel peut nous aider à revenir dans le sujet. Et la dernière fois, c'était au mois de mai, ça va, c'est pas trop long, jusqu'au mois de juin, donc un mois. Et nous allons faire quelques petits rappels. Maintenant, on commence à se souvenir de ces choses. N'oublions jamais une chose. Je l'ai déjà dit 5 fois, c'est la 6e fois. Sur quoi est basé, sur quel fondement est basé nos relations selon Dieu? C'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est son œuvre de rédemption. C'est notre base, notre fondement. Là, on ira puiser pour vivre réellement les relations selon Dieu. Cette bonne nouvelle du salut, accomplie par notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et toutes ses implications. Les implications qui nous conduisent à vivre particulièrement, comme on l'a vu, 4 actions de l'artisan de paix, qui commencent toutes par une même lettre pour s'en souvenir. Alors c'est vrai que la richesse du salut, l'espérance que le salut contient, la libération, l'adoption que nous recevons de Dieu par un Père parfait, l'héritage éternel, la restauration, la joie du salut, tout cela et plus encore nous pousse à vivre à la gloire de Dieu. Vous vous souvenez le premier R, rendre gloire à Dieu. Hein? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous avions lu ça dans 1 Corinthiens 10, 31. Cherchons donc à chaque instant de notre vie à nous dire, est-ce que maintenant, là, je glorifie le Seigneur?
Pour certains, l'acronyme iPad vous sera sûrement utile. Hein? Je plais à Dieu, comme on l'a déjà vu ensemble.
Cette œuvre de rédemption où Jésus meurt à la croix pour payer pour nos péchés, où il a, écoutez bien ce petit mot, tout accompli, où il a tout accompli, nous pousse à vivre en fait le second R, la seconde action, qui est en fait de retirer notre poutre. Comme Jésus a payé pour chacun de nos péchés, nous pouvons les confesser.
Et là, le texte de Matthieu 7,5 commence aussi à entrer maintenant dans nos cœurs, je l'espère, hein, où il a dit « Hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. »
Et à chaque fois que nous nous repentons, nous saisissons en fait l'œuvre de Christ et nous sommes pardonnés. C'est cette assurance qui nous pousse à confesser nos fautes. Si nous n'avions aucune assurance d'être pardonnés, pourquoi ne le ferions-nous? Mais nous sommes assurés que Christ pardonne à celui qui se repent.
Souvenez peut-être des 7 A de la confession qui libère. Hein, donc, aller vers les personnes, abandonner les mais si peut-être, hein, avouer sa faute spécifiquement, admettre d'avoir blessé, accepter les conséquences, améliorer et appeler au pardon, hein, cette notion d'une confession qui libère.
Ce merveilleux salut en Jésus-Christ, nous ne voulons pas seulement le vivre pour nous-mêmes. Si nous le connaissons, si nous le vivons, nous avons envie que d'autres le vivent également. Et c'est ce qui va nous pousser à vivre ce troisième R qui est redresser dans la douceur. Un frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté, avions-nous vu dans Galates 6, verset 1. Donc lorsque je vois quelqu'un qui pêche contre moi, ou même si ce n'est pas contre moi, je désire qu'il puisse en fait également bénéficier de l'œuvre de Christ. Si quelqu'un pêche autour de vous, la première chose, ce n'est pas que cette personne soit punie, c'est que cette personne soit libérée, en fait, de ce péché. Et donc je m'approche, non pas en ayant une attitude de vengeance avec le bâton, mais avec une attitude de réconciliation avec le pardon. Ou au lieu de m'approcher avec la loi pour écraser l'autre, je vais m'approcher et utiliser la loi pour apporter l'évangile libérateur.
Et dans son œuvre de salut, Jésus-Christ me montre un exemple extraordinaire de pardon. On l'avait vu la dernière fois. Et c'est ce qui nous pousse à vivre ce quatrième R qui est de rechercher la réconciliation. Et nous avions vu une première partie qui était par le pardon la dernière fois. Où nous avions vu ce texte très fort d'Éphésiens. C'est des textes qui sont toujours très forts quand on nous dit de vivre comme Dieu. Hein, Éphésiens 4, 32 qui nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Donc avant de retenir notre pardon, si quelqu'un vient nous le demander, eh bien il est peut-être bon et utile de nous rappeler combien Dieu nous a pardonné. Et cela nous permettra de nous souvenir de cette histoire dans Matthieu 18, hein, où on voit qu'une grande dette, non, une immense, non, une énorme dette nous a été remise en fait. Et que celui qui vient nous demander pardon, c'est vrai que la dette n'est pas forcément minimale, mais elle est quand même bien plus petite que ce qui a été remis pour nous. Donc le pardon, nous l'avions vu et j'insiste, c'est un élément qui est vraiment important, le pardon, c'est la porte d'entrée du chemin de la restauration des relations. Sans pardon, vous n'entrez pas dans ce chemin. Avec le pardon, on peut rentrer dans ce chemin pour restaurer une relation qui peut prendre du temps parfois, c'est vrai, mais on est dans ce chemin de la restauration.
Et aujourd'hui, nous allons poursuivre comme promis et voir la deuxième facette de ce rechercher la réconciliation de manière constante. Et cette fois-ci, nous verrons que c'est en triomphant du mal par le bien. Parce que comment chercher continuellement la réconciliation, c'est-à-dire être en paix avec tout le monde, si l'autre ne le veut pas?
Nous commencerons donc par une petite illustration cette fois-ci, puis nous parlerons de la miséricorde qui nous permettra de revoir quelques aspects de l'artisan de paix et poser les fondements du sujet du jour. Et ensuite, nous parlerons du dialogue de réconciliation avec un principe que l'on appellera le principe pause. Et nous nous attarderons pour terminer sur le texte de Romains 12 pour voir comment triompher du mal par le bien. Voilà le menu de ce matin. Et pour la petite illustration qui nous aide à entrer dans le sujet, en fait, c'est une illustration de tous les jours que quelqu'un a vécu un jour. Il s'est retrouvé donc sur une route où il a rencontré une dame non-voyante qui marchait de l'autre côté de la route avec son chien guide. Et comme cette personne qui les a vus allait le dépasser et qu'il a remarqué qu'une voiture bloquait leur passage, en fait, se mettait entre deux, voulait d'abord aller les aider, mais il s'arrêtait et l'a regardé. Et à ce moment-là, le chien s'est arrêté avant l'obstacle et s'est appuyé doucement sur la jambe de la dame. Cette dame était un peu surprise parce que d'habitude, elle prenait ce chemin, il n'y avait pas d'obstacle à cet endroit-là et elle voulait continuer. Et le chien, en fait, a continué à s'appuyer contre sa jambe pour qu'elle se détourne. Pensant qu'il n'y avait rien devant elle, elle a commencé à dire à son chien, « Maintenant, avance, nous voulons continuer. » Le chien est resté immobile, toujours en s'appuyant doucement contre sa jambe. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passait dans sa tête ce jour-là. Cette dame, mais elle a commencé à frapper son chien pour qu'il avance, afin d'aller sur le chemin qu'elle désirait suivre. Et ce chien a continué à simplement s'appuyer doucement contre sa jambe pour la faire dévier. Et tout en sachant qu'il allait être probablement frappé à nouveau, il s'est appuyé contre elle. Cette fois-ci, la femme l'a frappé tellement fort qu'il a gémi. Et elle est partie en avant et a foncé contre la voiture. Et elle a réalisé soudain ce qui s'est passé. Elle s'est jetée à genoux, embrassé son chien, elle lui a murmuré des mots à l'oreille, il n'a pas pu entendre ce qu'elle disait. Mais on pourrait supposer, imaginer qu'elle a admis qu'elle a eu tort, qu'elle lui a demandé pardon en faisant l'éloge de sa fidélité, même après avoir été si maltraitée. Elle a reconnu qu'elle avait tort, qu'elle lui a demandé pardon en faisant l'éloge de sa fidélité, même après avoir été si maltraitée. En fait, cette petite histoire nous permet de voir cette abnégation de ce conducteur et son souci du bien de l'aveugle. Il n'a pas cherché son propre intérêt et a continué à agir avec bonté, même s'il était maltraité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour entrer dans ce sujet du jour, de rechercher la réconciliation en étant vainqueur du mal par le bien, nous allons réfléchir sur la miséricorde, exercer la miséricorde. Quelqu'un a dit que la miséricorde est un bien que chacun désire recevoir, mais que personne ne veut donner. Parce que la miséricorde a un prix. Et nous avons en fait tous, sans exception, besoin de miséricorde, parce que nous sommes pécheurs. Voici une définition de ce mot qui me semble utile et pertinente. La miséricorde consiste à traiter les autres avec un esprit de douceur, de pardon et de bienveillance, afin de les soulager de leur détresse et d'annuler leur dette. Ou encore, la miséricorde est la compassion manifestée par la patience et l'action. Et pour bien saisir cette notion de miséricorde, eh bien, nous allons chercher à voir ensemble quelques éléments, quelques composants de cette miséricorde. Et nous allons nous pencher sur trois qualités essentielles qui caractérisent la miséricorde. Ces trois qualités, en fait, sont la compassion, le pardon et la patience. La compassion, le pardon et la patience. La compassion, en fait, nous rend profondément conscients de la souffrance de l'autre et nous pousse à vouloir l'aider. La compassion nous aide à ne pas nous attarder sur nos propres difficultés et à nous préoccuper de celles des autres. Un exemple, et nous le verrons dans ces trois qualités, dans la parole de Dieu, c'est Joseph. Joseph, qui était en prison lui-même, s'est occupé d'autres prisonniers. Vous vous souvenez par exemple avec les chansons et le panetier. Alors que lui-même était prisonnier, il s'occupe des autres prisonniers. Voici cette notion de compassion. Deuxième aspect, c'est l'aspect du pardon. Cet aspect, nous l'avons bien sûr développé lors de la dernière prédication, mais il n'est pas inutile de souligner l'importance du pardon dans les relations et particulièrement dans la restauration des relations. Le pardon nous amène à acquitter l'offense sans traiter le fautif comme un criminel ou nourrir du ressentiment à son égard. Comme Joseph l'a fait envers ses frères qu'il a accueillis en Égypte, il a pris soin d'eux alors que eux, ils l'avaient vendu comme esclave. Troisième de ces qualités essentielles de la miséricorde, c'est la patience. Et la patience entre particulièrement en jeu lorsque l'autre personne n'est pas ouverte à la discussion. Lorsque cela ne se déroule pas comme on le désire, ou lorsque nous n'avons aucun moyen de changer les choses, lorsque nous devons attendre que l'autre change, ou lorsqu'il a besoin de temps pour digérer. La patience est un élément essentiel aussi de la miséricorde. La patience permet même de supporter les provocations. Elle est prête à accompagner quelqu'un qui éprouve de graves ennuis, même si la vie devient plus difficile. La patience, c'est également être prêt à attendre sans se révolter contre Dieu, alors que tout semble difficile et incompréhensible. Ça arrive parfois. Et la patience nous permet de ne pas nous révolter contre Dieu, mais de nous attendre à lui. Comme Joseph, qui a toujours cherché à vivre droitement, même s'il était esclave pendant des années. Ce n'était pas juste une semaine ou deux. Il était en prison pendant des années et il a continué à vivre fidèlement et à s'attendre patiemment à Dieu. La compassion, le pardon et la patience, voilà, sont trois qualités essentielles donc de la miséricorde. Mais alors, la miséricorde, comment est-ce qu'elle se manifeste dans les relations? Et j'aimerais vous entraîner avec moi dans une petite réflexion qui nous amène sur 9 petites réflexions sur qu'est-ce que la miséricorde apporte dans une relation. Le premier, c'est que la miséricorde signifie que vous vous attendez à souffrir dans vos relations et que vous l'acceptez. La miséricorde signifie que vous vous attendez à souffrir dans vos relations et que vous l'acceptez. En fait, la miséricorde implique que je ne recule pas devant la souffrance pour garder ou restaurer une relation. Par exemple, la miséricorde implique de ne pas rejeter l'autre, même si je suis embarrassé par sa tenue vestimentaire, par exemple, ou même par son état de perdition spirituelle qui trouble mon âme. Sommes-nous prêts à souffrir pour quelqu'un d'autre? Là, dans ces 9 réflexions, on prendra notre exemple suprême. Jésus l'a fait. Deuxième conséquence, manifestation de la miséricorde, c'est que la miséricorde signifie que vous acceptez de vivre avec le pauvre. Je ne parle pas seulement de pauvreté économique. Cela peut être pauvreté spirituelle, morale, sociale, intellectuelle ou spirituelle. En fait, la miséricorde, c'est accepter de vivre avec des personnes qui ont des manques et ne pas les délaisser lorsque nous découvrons leur pauvreté. Jésus n'a pas reculé devant la pauvreté de foi de ses disciples. Troisième implication. La miséricorde signifie que vous évitez le favoritisme. Cela signifie que nous ne cherchons pas seulement à avoir des contacts avec des personnes faciles à aimer et qui aiment en retour. Quelqu'un a dit, si nous sommes accueillants seulement envers ceux qui nous permettent de maintenir notre zone de confort, nous ne démontrons pas encore de véritable compassion. Jésus n'a pas fait de distinction. Il accueille ceux qui viennent à lui. Quatrièmement, la miséricorde signifie que vous persévérez dans l'épreuve. Persévérez dans l'épreuve. Jésus est allé jusqu'au bout de l'épreuve ultime, même de donner sa vie. Cinquièmement, la miséricorde met de côté ses plans de bonheur personnel. Mettre de côté ses plans de bonheur personnel. C'est chercher sans arrêt, non pas ce que je désire, mais ce que Dieu désire. Et soyez assurés, mes chers frères et sœurs, ce que Dieu désire, c'est bon. Donc cherchez sans arrêt ce que Dieu désire accomplir à l'intérieur d'une relation, plutôt que la promotion de ses intérêts personnels. Jésus avait la joie de faire la volonté de Dieu et il ne cherchait pas son bien-être personnel. Sixièmement, la miséricorde signifie que vous vous engagez à pardonner. Vous vous engagez à pardonner. Et en nous engageant à aider, nous serons les premiers à être éclaboussés par le péché des autres. Si vous dites « je veux aider quelqu'un », cette personne est autant pécheresse que vous. Vous serez éclaboussé par son péché. Donc il faut être déjà prêt à entrer dans ce cheminement du pardon. Et Jésus a tout accompli pour que le pardon puisse être accordé. Là, nous avons une ressource auprès de lui. Et il a été celui qui, même maltraité, a demandé à son Père de pardonner parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Septième élément, la miséricorde signifie que vous passez par-dessus les fautes mineures. Passez par-dessus les fautes mineures. Cela nous rappelle un enseignement que nous avons déjà vu. Je ne vais pas le redévelopper. Simplement nous souvenir de ce texte de Proverbe 19:11 qui nous dit « L'homme qui a du discernement est lent à la colère et il met son honneur à passer sur une offense. » Jésus n'a pas repris ses disciples à chaque fois qu'ils ont fait une faute. Imaginez s'il nous reprenait chaque fois qu'on faisait une faute. La miséricorde signifie que vous passez par-dessus les fautes mineures. Huitièmement, la miséricorde ne fait pas de compromis sur le vrai et le juste. La miséricorde, c'est pas faire des compromis. C'est pas dire « c'est pas grave, c'est rien ». Non, quand il y a un péché, c'est grave. Mais Christ a payé. C'est en fait vivre le troisième R, à redresser dans la douceur, en faisant preuve de compassion. Nous ne supprimons pas la loi de Dieu, mais nous guidons vers l'évangile libérateur. Jésus n'a jamais confondu la miséricorde avec le compromis. Et dernièrement, neuvièmement, plus nous manifestons de la miséricorde, plus en fait la miséricorde de Dieu envers nous devient essentielle. Plus nous manifestons de la miséricorde, plus elle devient essentielle pour nous. Parce qu'en cherchant à manifester de la miséricorde aux autres autour de nous, nous nous rendons compte que face au péché des autres qui nous arrive, eh bien c'est notre égoïsme, c'est notre impatience, c'est notre inconséquence qui souvent est mise en lumière et qui nous pousse à aller chercher la miséricorde auprès de Dieu. Mais là, soyons rassurés. La banque de miséricorde de Jésus-Christ est toujours ouverte et bien fournie. Si nous désirons vivre dans une situation réconciliée de façon constante, nous sommes appelés donc à vivre la miséricorde de façon constante. Et la seule manière de le vivre, c'est en puisant dans la miséricorde de Dieu. Ne la cherchez pas en vous-même, on l'a déjà vu pour la paix, on l'a déjà vu pour le pardon, on le voit aussi pour la miséricorde. C'est pas en nous, c'est en Christ que nous trouvons cette miséricorde. Réfléchissons maintenant à la manière de vivre la réconciliation, comment s'y prendre pratiquement pour aller discuter avec celui qui nous a fait mal. C'est le point que j'ai intitulé « Dialogue de réconciliation ». Lors des conflits, le dialogue est malheureusement souvent un dialogue de compétition. Qui de nous deux ou qui des deux parties aura raison? Mais ce n'est pas l'attitude enseignée par la parole de Dieu, qui nous invite à un dialogue de coopération, rempli de miséricorde, qui considère les intérêts de l'autre aussi. Et voici quelques textes qui nous y invitent, pour vous dire, c'est basé sur la parole. Matthieu 22:39, celui-là il est connu. On le connaît, parce qu'il suit le plus grand commandement, et Jésus dit, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on n'est pas dans un dialogue de compétition. De ce qu'on est enseigné ici. Ou bien Matthieu 7:12, qu'on a aussi entendu. Tout ce que vous voulez, qu'on a entendu dans Luc tout à l'heure, mais Matthieu 7:12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites le même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. De nouveau, on n'est pas dans une compétition. Ou encore Philippiens 2, qui est très clair sur ce sujet, qui dit, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, versets 3 et 4.
Nous sommes donc appelés à rechercher un dialogue de réconciliation et non pas de compétition.
Et pour nous aider à retenir ce principe, nous allons faire une pause.
Enfin, plutôt utiliser l'acronyme PAUSE, pause,
qui nous indique également qu'il est important de s'arrêter lorsque nous sommes dans une situation de conflit, de s'arrêter, faire une pause. Et le P va nous rappeler qu'il faut nous préparer à dialoguer et qu'il faut prier. Ça, c'est le P de pause. Le deuxième, le A, il nous faut affirmer les relations.
Je vous les donne, mais je vais les expliquer, n'ayez crainte. Hein?
Affirmer la relation. Le U, user de compréhension pour les intérêts de chacun.
User de compréhension pour les intérêts de chacun.
Le S, donc P-A-U-S, solutionner de façon créative et intéressante.
Et le E, évaluer les options objectivement et raisonnablement.
Ces étapes nous sont très utiles lorsque nous sommes appelés à parler avec quelqu'un pour résoudre un problème. On va les reprendre. On va les reprendre une fois en expliquant un petit peu ce que c'est, puis ensuite on prendra un exemple biblique, on ira le voir, mise en pratique.
Donc P,
préparez-vous. Alors le P doit bien sûr nous rappeler premièrement,
il y a un P aussi, qu'en fait nous sommes appelés à préparer tout cela dans la prière. C'est un élément vraiment fondamental.
On parlait dans l'accompagnement des adultes en devenir aussi de cette notion, des fois, de s'arrêter, de dire, voilà, on est dans une situation, on ne sait pas quoi faire.
Ben, n'ayons crainte de nous arrêter, de dire, écoute, j'ai besoin de temps et je vais prier.
Pas besoin de faire 3 heures de prière, mais de s'arrêter, d'aller vers l'Éternel.
Parfois, il en a peut-être besoin, ça c'est dans les mains de Dieu.
Voilà, la prière. Mais dans cette préparation couverte de prière, il est utile de mettre les faits à plat, d'enlever, en fait, le plus possible les interprétations. On est souvent en train d'interpréter au lieu de parler des faits eux-mêmes. Nous sommes des interprètes. Donc par rapport à l'interprétation, donc quand Dieu a créé le monde, il a donné son interprétation. Il a expliqué à l'homme ce qu'il a fait. Et jusque-là, l'interprétation était bonne. Dès Genèse 3, il y a une deuxième interprétation qui est venue dans le monde. Celui du malin, qui nous touche tous. Et on doit justement se débarrasser de cette interprétation-là. Nous cherchons donc des conseils selon Dieu, nous développons des options pour des réactions guidées par les 4 R. Souvenez-moi des 4 R, rendre gloire à Dieu, retirer la poutre, redresser avec douceur, puis rechercher la réconciliation. Donc préparez-vous, c'est le P. Deuxièmement, A, affirmer les relations. C'est en fait montrer un intérêt authentique et du respect pour l'autre. Lorsque nous voulons régler un conflit, peut-être nous n'allons pas directement en parler de la situation problématique, mais de dire, maintenant on se rencontre, et j'aimerais que l'on ait une relation restaurée. De le dire avant, c'est notre objectif. Que l'autre soit rassuré aussi. Nous pouvons affirmer que nous désirons que la relation soit rétablie et confirmer que cette relation, elle est importante pour nous. Voici quelques éléments qui peuvent faire partie de l'affirmation de la protection de la relation. Premièrement, bien sûr, communiquer de manière courtoise. Se soucier de ce que l'autre vit. Se soumettre à l'autorité, si nous sommes dans une situation de relation à l'autorité, se soumettre à l'autorité. Chercher à comprendre avec sincérité, considérer les intérêts de l'autre. Traiter le pécheur avec miséricorde. Permettre que l'autre sauve la face, alors comprenez-moi bien, c'est pas que son péché soit excusé, mais qu'il puisse être rétabli s'il se repent et manifeste des fruits. Et être reconnaissant et remercier la personne de pouvoir discuter. Vous savez, quand on demande à quelqu'un, j'aimerais régler quelque chose avec toi, et qu'il vient, et que vous pouvez parler avec, je pense qu'on peut déjà le remercier de désirer avoir cette relation. Des fois, c'est déjà même pas possible. Déjà, de remercier, on est dans une situation où on affirme notre relation, vous voyez. Puis ensuite, ben maintenant, on désire ensemble arriver à un objectif, qui est la réconciliation. P.A., ensuite le U, user de compréhension pour les intérêts de chacun. Ben là, on cherche à identifier ce qui est en jeu pour l'autre et pour nous-mêmes. En examinant cela, toujours, est-ce que ça rend gloire à Dieu, hein, bien entendu. Par exemple, si une fille veut faire ses devoirs sur l'ordinateur familial auquel l'imprimante est connectée, et que son frère est en train d'être sur les réseaux sociaux à ce moment-là, sur les réseaux sociaux et dialoguer avec ses amis, les intérêts sont les devoirs pour la fille et le besoin d'être en contact avec ses amis pour son frère. Comment concilier ces deux intérêts?
Alors nous comprenons que
tous les intérêts sont liés avec les besoins, les obligations, les envies, les aspirations, les souhaits, et qu'ils n'ont pas tous la même priorité ni la même légitimité. Mais attention, ce qui peut être considéré comme un souhait pour l'un peut être considéré comme un besoin pour l'autre. Et c'est donc important dans cette étape de bien comprendre l'enjeu qui est réellement là et non juste ce que nous pensons. P, préparer. A, affirmer ses relations. U, user de compréhension. S, solutionner de manière créative et satisfaisante. Chercher des solutions. Et c'est vrai que parfois j'encourage de ne pas en chercher qu'une, mais d'en chercher plusieurs. Pourquoi ? Parce que si on a plusieurs solutions qu'on amène à celui à qui on parle, on ne le met pas face au fait qu'on va le guider dans ce qu'il doit faire. On dit, ben voilà, on a plusieurs solutions et c'est ensemble que l'on va chercher. Nous ne sommes pas en train de le manipuler ou de le forcer à aller dans une direction. Nous cherchons une solution et non pas à dire ce qui est juste. Donc la créativité et l'imagination sont utiles dans cette étape. Si on reprend l'exemple de la fille qui veut faire ses devoirs sur l'ordinateur et du frère qui est en train de chatter sur les réseaux, la fille peut comprendre que son frère est en train d'organiser la prochaine sortie du groupe de jeunes, en fait, et qu'il est en train de communiquer avec ses amis. Alors là, elle lui explique l'importance de son devoir et elle peut lui proposer, par exemple, si elle a le permis, alors ça c'est une question d'âge, de l'amener chez ses amis afin qu'il puisse préparer cette rencontre. Ou bien lui proposer sa tablette. « Ah ben moi j'ai une tablette, je l'ai parlé à l'imprimante, donc tu peux l'utiliser pour faire tes contacts et moi je peux faire mes devoirs sur l'ordinateur. » Ou bien lui proposer de téléphoner un de ses amis qui est sur les réseaux, puis lui il fera le relais avec les réseaux. Ou bien lui dire « Ben écoute, tu me laisses l'ordinateur, puis après je peux même te donner un coup de main pour organiser cette rencontre. » Ou bien lui dire « Est-ce que toi tu as une autre idée ?» Comprenez, hein, d'essayer de chercher un moyen pour que ensemble on trouve une solution. Préparer, affirmer ses relations, user de compréhension, solutionner de façon créative et satisfaisante, et le E, évaluer les options objectivement et raisonnablement. Permettre l'évaluation de la solution proposée. Et là, il y a un exemple qui est éloquent dans la Bible. C'est l'exemple de Daniel. Daniel et ses compagnons ne voulaient pas manger des viandes sacrifiées, alors que le chef des eunuques devait lui donner ses mets du roi. Daniel a dialogué, a donné un moyen ensuite d'évaluer la solution proposée. Et nous lisons dans Daniel 1, versets 15 et 16, « Après 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Désormais, donc là l'évaluation reçu, acquise, désormais, l'intendant emportait les mets et les vins de leur repas et leur donnait des légumes. » Vous voyez ? Donc ça, c'est l'évaluation. Donc le principe pose a été exposé ici maintenant. Et afin de le saisir, comme je l'ai dit, on va le reprendre avec l'exemple d'Abigaël, qu'on a lu tout à l'heure dans la Bible, dans 1 Samuel 25. Vous pouvez même prendre vos Bibles et l'ouvrir dans 1 Samuel 25 pour suivre un petit peu ou revoir certains éléments. Mais vous l'avez peut-être encore bien en tête aussi. Rapidement, nous allons voir ce P-A-U-S-E dans ce cas. P, préparez-vous. Abigaël prépare la rencontre avec David. Il y a un conflit, hein, c'est évident, je crois qu'on a tous compris ça. Et donc, Abigaël prépare sa rencontre avec David, avec des présents. Mais nous voyons dans ce qu'elle dit à David, qu'elle a aussi réfléchi à ce qu'elle allait lui dire. Donc, elle s'est préparée pour le rencontrer. A, affirmer les relations. Abigaël se jette aux pieds de David et lui parle avec un respect, avec politesse. Et si vous allez chercher dans le texte, au verset 29, pour donner un élément, on pourrait prendre beaucoup de temps ici, mais par exemple, au verset 29, elle fait référence à une fronde. Quand on fait référence à une fronde à David, ça fait penser à quoi ? Ça fait penser à un moment des plus glorieux de la vie de David. Elle est en train d'affirmer sa relation à David. Ensuite, U, user de compréhension pour les intérêts. Abigaël a compris l'intérêt de David d'avoir une conduite irréprochable et une bonne réputation. Abigaël avait compris ça. David devait avoir une conduite irréprochable et une bonne réputation pour l'avenir. Vous savez, juste avant ce texte, Saül venait de massacrer les innocents de Nob qui avaient donné à manger à David. Ce n'était pas le moment d'aller massacrer ceux qui n'avaient pas voulu lui donner à manger. De plus, ce texte dans 1 Samuel 25 est en fait entouré de deux autres textes où à chaque fois, David a
épargné Saül.
Avant et après. C'est pas le moment maintenant, puisque là, avec Saül, il était vainqueur du mal par le bien, évidemment. C'est pas le moment maintenant d'être vaincu par le mal. Abigaïl avait compris cela. Elle avait compris l'intérêt de David. Et David va confirmer à Abigaïl qu'elle avait compris ses intérêts en disant au verset 33, « Béni soit ton bon sens. Béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour d'en arriver au crime et d'assurer moi-même mon propre salut. » Il dira bien sûr aussi que cela vient de l'Éternel. Il est convaincu que cela vient de l'Éternel. Et là, on voit en fait que Abigaïl a donné une solution à David, c'est-à-dire d'accepter ses présents et de ne pas aller chez Nabal. Et David a fait l'évaluation et a accepté ce qui a été donné. Vous voyez, donc ce principe pose, est vécu, on n'a pas forcément les éléments en tête PAUSE, mais la notion est présente aussi dans ce texte et est très utile quand on doit régler des conflits. Mais il nous faut maintenant nous tourner vers le texte de Romains 12, qui nous donne de précieux conseils, particulièrement dans les conflits qui semblent bloqués. C'est le troisième point. Triompher du mal par le bien. Je vous invite à reprendre vos Bibles dans Romains 12. Dans Romains 12, pour lire au verset 21 ce qui est écrit, c'est vraiment le point clé, c'est le verset que vous pouvez prendre avec vous par rapport à toute cette prédication qui nous dit « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » C'est quelque part notre fondement pour répondre à ceux qui ne veulent pas être réconcilié malgré tous nos efforts. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Pourquoi, après que l'on ait cherché à vivre de manière à rendre gloire à Dieu, où nous avons retiré notre poutre, où nous avons recherché à relever avec douceur, et nous sommes prêts à accorder le pardon, pourquoi certaines personnes ne veulent-elles pas vivre la réconciliation ? Est-ce que ça signifie que la Bible a atteint ses limites? Qu'il faut maintenant la fermer et se tourner vers d'autres moyens de réconciliation? Absolument pas. Parce que la parole de Dieu doit toujours rester le seul guide fiable pour la résolution de conflits. Et un chrétien sait que lorsque nous ne savons plus quoi faire, il y a une chose qu'il ne faut pas faire. C'est fermer la Bible. Donc comme ça, quand vous ne savez plus quoi faire, il y a déjà une chose que vous savez. C'est qu'il ne faut pas fermer la Bible. Ça ne signifie pas que tout va se résoudre facilement. Mais ça signifie que nous ne devons pas nous concentrer premièrement sur le résultat, mais sur notre fidélité à Dieu. Car nous ne pouvons pas maîtriser le cœur de notre offenseur, par exemple, ou les circonstances. Mais sachez que Dieu nous donne des armes divines face à celui qui ne veut pas être réconcilié. Hein, comme il est dit dans 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Et l'arme puissante que Dieu nous a donnée est l'évangile de Jésus-Christ. Et un aspect de cette puissante arme est l'amour. Mais avant de parler de cette arme suprême, parlons des autres armes proposées dans Romains 12, justement. Comme tout combattant, vous savez que l'utilisation des armes ne se fait pas sans effort. Bon, maintenant, avec les armes qu'on a, on a l'impression qu'il y a peu d'effort. Mais franchement, il y a besoin d'effort pour utiliser une arme. Et parfois même peut amener de la souffrance. Mais voici la première arme qui nous est donnée au verset 14. Verset 14 nous donne la première arme qui est « maîtriser notre langue ». Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez. Et ne maudissez pas. L'arme des paroles de bonté a terrassé plus d'un cœur dur, les amis. Et là, on peut vraiment prier que Dieu continue à le faire par notre vie aussi. L'arme des paroles de bonté a terrassé plus d'un cœur dur. Deuxième arme que l'on trouve au verset 16, c'est être humble et chercher conseil. Verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Parce que celui qui se croit sage à ses propres yeux ne demande pas conseil. Et sans conseil, il se trompe souvent et empire la situation. Ne pas se croire sage à nos propres yeux. Et deuxièmement, rechercher cette humilité, parce que l'humilité est une arme qui permet d'éviter de nombreux fardeaux. Parce que l'orgueil, qui est l'inverse de l'humilité, diminue l'impact des missiles de l'amour, en fait. Vous pouvez manifester de l'amour si en même temps vous manifestez de l'orgueil, l'impact est moindre. Continuons avec ce texte, verset 17, où en fait il nous invite à continuer à faire ce qui est juste malgré les situations. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Même si du mal nous arrive, ne rendons pas le mal. Avons-nous la force de faire ça? Pas en nous-mêmes, mais nous pouvons avoir la force en Dieu, en Christ. Et écoutez bien cela, ça c'est une clé à mon avis aussi. Nous n'avons pas un seul texte biblique, pas un seul. Là je mets au défi en fait, hein. Mais il n'y a pas un seul texte biblique qui nous indique que nous devons pécher pour plaire à Dieu. Jamais Dieu ne vous demandera de pécher pour lui plaire. Donc l'arme à utiliser est « faites le bien, ce qui est juste selon Dieu, en tout temps, quelles que soient les circonstances ». Une autre arme qui nous est donnée au verset 18 est importante également. C'est celle de reconnaître ses limites. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour vivre la réconciliation, et si l'autre ne le veut pas, il ne faut pas insister. Ne cherchons pas à faire l'œuvre de Dieu à sa place. Par contre, c'est vrai, s'il y a un changement de circonstances, s'il y a une ouverture qui est là, il est important de continuer à faire tout ce qui est possible pour parvenir à la réconciliation. Nous continuons à la désirer, mais nous ne pouvons plus aller vers l'autre, lui dire maintenant il faut continuer. S'il ne le veut pas, nous ne pouvons pas faire le travail de Dieu. C'est dur, c'est vrai. Et comment est-ce que nous pouvons vivre cela? Pas par nos forces, par les forces que Dieu nous donne. Et c'est vrai, quand les relations sont éloignées, c'est plus facile. Quand les relations sont plus proches, on a besoin de la grâce de Dieu pour continuer à vivre dans ces relations d'une manière saine et d'une manière bonne, tout en sachant que nous, on ne peut pas aller plus loin actuellement. Tant que c'est figé, il faut simplement vivre la miséricorde. Voilà pourquoi on a parlé de cette compassion, pardon, patience au départ. Et remettre en fait cette situation dans la main de Dieu. Et tous les cas, même si une situation est bloquée, il faut laisser à Dieu la vengeance. Dans tous les cas, il faut laisser à Dieu la vengeance. C'est le verset suivant qui le souligne, le verset 19. Laissez à Dieu la vengeance, où il est dit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. » Mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Quand il est parlé de laisser agir la colère, c'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu, du juste juge. Laissons donc le jugement à Dieu, car nous n'avons pas la capacité d'effectuer le jugement du cœur. Alors ça signifie pas que les autorités civiles, par exemple, ne doivent pas exercer le droit et appliquer les peines. Ils ont reçu ce mandat. Ce n'est pas à nous de nous venger. Et nous arrivons au verset 20 et 21 à l'arme suprême. Utilisez l'arme suprême. Verset 20 et 21. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. L'arme suprême, c'est un amour volontaire focalisé sur l'autre. Un amour volontaire et focalisé sur l'autre. Aimer l'autre. C.S. Lewis disait ceci, il disait « Ne perdez pas de temps à savoir si vous aimez votre prochain. Est-ce que je l'aime ? Ne perdez pas ce temps-là. Agissez comme si tel était le cas. Dès que nous faisons cela, nous découvrons l'un des plus grands secrets. Lorsque vous vous comportez comme si vous aimiez l'autre, vous arrivez enfin à l'aimer. » On ne doit pas se dire « Est-ce que je peux l'aimer ?» Nous sommes appelés à l'aimer. De nouveau, est-ce que je trouve la force en moi ? Non. Je vais chercher la force en Dieu pour aimer. Concernant les charbons ardents, c'est toujours un petit peu une question dans ce texte, ces charbons ardents. Il est intéressant de noter deux choses. La première, c'est qu'une coutume au Moyen-Orient consistait à transporter du charbon sur sa tête pour en apporter à quelqu'un dont le feu s'était éteint. Cela illustre le désir du bien de l'autre, comme nous le voyons dans Proverbes 25, 21 et 22, qui reprend l'image dans ce sens-là. Donc c'est, en fait, vouloir du bien à l'autre qui a perdu son feu. Il y a une deuxième façon de voir, donc elle est intéressante celle-là, et une deuxième aussi, c'est que les psaumes nous rapportent que les charbons ardents étaient utilisés par les soldats pour combattre leurs ennemis, dans psaume 120, verset 4. Cela illustre que l'amour est une arme qui peut venir à bout des plus déterminés. C'était vraiment l'arme pour venir à bout des ennemis, selon le psaume 120, verset 4. À la fin, l'amour actif envers un ennemi nous protégera de la défaite spirituelle marquée, parce que quand on n'est pas en train d'aimer, vous savez ce qui se passe dans nos cœurs, c'est l'amertume, la colère, la soif de revanche qui, en fait, se développe. Et dans certains cas, votre amour actif et déterminé pour votre opposant sera utilisé par Dieu pour l'amener à la repentance. Ce n'est pas une assurance. Dieu ne dit pas « vous aimez, ils vont se repentir ». Mais c'est un moyen que Dieu utilise et qu'il a déjà beaucoup utilisé. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, notre but ce n'est pas le résultat, c'est notre fidélité. Le résultat appartient à Dieu. Et dans tous les cas, l'amour mène toujours à une action plus noble et digne de Dieu que la vengeance. L'histoire de Ernest Gordon nous le montre. Gordon fut capturé par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale et fut forcé avec d'autres prisonniers anglais à endurer des années de mauvais traitements. Face à la famine et à la maladie dans les camps et à la brutalité des gardiens qui tuèrent un grand nombre de ses camarades, Gordon survécut et devient un puissant exemple du triomphe de l'amour chrétien sur la perversité humaine. Cet amour brilla, par exemple, un jour lorsque Gordon et ses prisonniers s'approchèrent d'un train rempli de soldats japonais, donc leurs ennemis, blessés, qui étaient transportés vers Bangkok. Voici comment Gordon décrit l'œuvre de grâce de Dieu. Ils étaient là, sans aucune assistance médicale. Leurs uniformes étaient tachés de boue, de sang et d'excréments. Leurs blessures enflammées et pleines de pus grouillées d'asticots, nous pouvions comprendre maintenant pourquoi les Japonais étaient si cruels envers leurs prisonniers s'ils ne prenaient même pas soin de leurs propres blessés. Pourquoi prendraient-ils soin de nous? Ces hommes blessés nous regardèrent esseulés alors qu'ils appuyaient leur tête sur les wagons, attendant avec fatalité la mort. Ils étaient les détritus de la guerre. Ils ne savaient où aller et personne ne prenait soin d'eux. Sans un mot, la majorité des officiers qui étaient dans ma section débouclèrent leur paquetage, prirent une partie de leur ration et un chiffon, de l'eau de la cantine à la main. Ils s'approchèrent des Japonais pour essayer de les aider. Nos gardes tentèrent de nous dissuader, mais nous les avons ignorés. Nous nous sommes agenouillés près de nos ennemis pour leur donner de la nourriture, de l'eau, pour nettoyer et bander leurs plaies, pour sourire et leur donner du réconfort. Après notre départ, j'observais mes camarades avec émerveillement. 18 mois auparavant, ils se seraient lancés dans la destruction de ceux qui nous avaient capturés s'ils étaient tombés entre nos mains. Mais maintenant, ces mêmes hommes pansaient les plaies de leurs ennemis. Nous avons expérimenté un moment de grâce, là, dans ces wagons tachés de sang. Dieu a brisé nos barrières de préjugés et nous a donné la volonté d'obéir à son commandement. Tu aimeras ton prochain. C'est vrai que la majorité d'entre nous ne vivront pas ces situations extrêmes où le gouffre entre aimer ses ennemis est si grand, comme nous l'avons aussi vu avec Corrie ten Boom, par exemple. Mais lorsque nous sommes face au défi d'aimer celui qui nous fait du mal, rappelons-nous les mêmes choses que Corrie ten Boom et Gordon ici. Rappelons-nous l'exemple suprême de Jésus-Christ, qui même mis en croix, demanda à Dieu de pardonner à ses bourreaux. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Nous y mettrons donc tous nos efforts, toutes nos forces, en sachant que la victoire est en Christ et que tout vient de lui. Nous arrivons à la conclusion de cette série. Qu'allons-nous faire avec tout cela? Rendre gloire à Dieu, retirer la poutre, redresser avec douceur, rechercher la réconciliation? Je ne vais pas m'étendre longuement. Je vais vous lire la conclusion de l'engagement de l'artisan de paix, qui dit ceci. Par la grâce de Dieu, nous appliquerons ces principes comme faisant partie de notre service, réalisant que les conflits sont des opportunités et non des accidents. Nous nous souviendrons que le succès selon Dieu n'est pas une question de résultat, mais d'obéissance fidèle envers lui. Nous prierons que notre service en tant qu'artisan de paix apporte la louange à notre Seigneur et conduise les autres à connaître son amour infini. Et ma prière, c'est que nous entrions résolument dans une démarche biblique et libératrice pour tous les conflits, grands ou petits, que chacun peut rencontrer dans sa vie, en ayant toujours comme but, comme focalisation, cette réconciliation, telle que nous l'avons reçue de Dieu. Que rien d'autre que la réconciliation qui honore Dieu ne soit dans notre viseur, afin que beaucoup encore, c'est un instrument puissant, que beaucoup croient en Christ qui réconcilie et entrent ainsi dans la réconciliation qui mène à la vie éternelle. On va courtement prier pour terminer. Être vainqueur du mal par le bien. Seigneur, cela me semble souvent au-delà de mes forces. Mais je te remercie parce que toi, tu as été vainqueur et que nous pouvons saisir ta victoire, que nous pouvons entrer dans ce cheminement de la restauration, de la réconciliation, de chercher de toutes nos forces, dans les limites aussi qui nous sont données, à être en paix avec tous les hommes. Seigneur, nous voulons être premièrement en paix avec toi et de cette paix nous voulons, Seigneur, la vivre et la partager autour de nous. Et nous saisissons que c'est par l'œuvre de Christ que nous pouvons y entrer, et nous voulons la partager. Et bien que ce soit le cas, Seigneur, ici aussi dans cette église, et que toute la région ici puisse être touchée par cette réconciliation avec toi en Jésus-Christ. Dans le beau nom de Jésus-Christ, Amen.